Bonjour à chacun. Plaisir de vous voir. J'ai pas eu l'occasion de le dire tout à l'heure. De voir ce que vous qui êtes habitués, vous qui nous visitez depuis quelques semaines, vous que je n'ai pas vu depuis quelques mois, en tout cas soyez les bienvenus. C'est un privilège pour moi d'ouvrir, on pourrait dire, une nouvelle saison. Saison 2024-2025 pour la vie de l'Église. Et c'est pas rien d'ouvrir une année, on l'a vu avec tous ces défis, avec tous ces enfants, toute cette belle jeunesse que le Seigneur nous accorde. En novembre cette année, ce sera la 90e année où ce local, ce lieu est ouvert, où le nom du Seigneur est proclamé. Je trouve c'est beau de le faire. Où ce lieu partage le message de l'espérance. Et je crois que cette année, comme Mathieu l'a exprimé aussi, on aimerait encore et encore nous encourager ensemble à proclamer ce message. Et j'aimerais le faire courtement pour chacun de nous, toute génération présente, nous partager un mot d'ordre qui va être assez facile à retenir, puisque Mathieu d'ailleurs l'a déjà dit, c'est ce mot « écoutons-le ». Écoutons-le. C'est peut-être basique comme mot, mais combien difficile. Écoutons-le. Parce qu'on a de nombreux chantiers, de nombreux défis devant nous, de nombreuses réflexions, comme toute une vie, que ce soit personnelle, hein, que ce soit individuel, que ce soit en termes de famille, mais que ce soit aussi en termes d'église, nous voulons l'écouter. Et nous voulons nous encourager à l'écouter. Alors ça nous permettra, bien sûr, parce que écoutons-le, de nous encourager à toujours à nouveau, non pas nous centrer sur nous, mais nous centrer sur Dieu, sur la personne de Dieu, en allant à sa rencontre au travers de la parole de Dieu notamment, au travers de la prière, et nous aurons l'occasion de développer un peu ce sujet sur ce mois de septembre. Et écouter, c'est quelque chose qu'en fait, on a vraiment beaucoup de mal. Enfin, en tout cas moi, je sais pas vous, mais c'est pas quelque chose qui nous est facile, pourtant pourvu de deux oreilles. Pour ceux qui ont des enfants, quand on veut communiquer quelque chose à nos enfants, on doit le dire, le redire et le redire. Les enfants parfois nous écoutent pas, ils ont tant de choses à faire ou tant de choses qu'ils sont en train de faire, et pourquoi écouter un parent qui nous appelle à table? Mais c'est le cas aussi pour moi, hein. Je sais le nombre de fois où mon épouse me donnait des consignes pour m'occuper, voilà, à 16h des enfants à la sortie de l'école, un certain nombre de consignes pratiques, j'écoutais d'une oreille, et à 16h je me dis, mais mince, qu'est-ce qu'elle m'a dit? C'était quoi le truc que je vais sortir sur la table? Alors je préfère qu'elle l'écrit, comme ça c'est sûr que je retrouverai les informations, et je suis tellement reconnaissant que Dieu nous a parlé par l'écriture, parce qu'en fait on est tellement oublieux, on a tellement du mal à écouter. Et cette écoute, elle est nécessaire tous les jours. Tous les jours. On a besoin de venir écouter notre Seigneur tous les jours. Alors, je ne sais pas comment s'est passé cet été, hein, pour vous, dans cette écoute du Seigneur. Je crois que c'était hier, il y avait la lettre de nouvelles de la prière CIM qui avait cette phrase « Nous espérons que votre été a été bienfaisant et connecté à Christ ». C'est ça l'écoute. J'étais connecté à Christ. Alors je dois reconnaître que pour moi, ça n'a pas toujours été évident. Je l'ai partagé à plusieurs ces derniers jours. Je constatais que ça manquait parfois de profondeur. Il y a quelque chose qui me manquait dans mon intimité avec Dieu. Bien des fois, j'ai fait des choix, j'ai eu des réflexions, j'ai eu des pensées, j'ai eu des décisions que j'ai menées de mon côté sans l'écouter. Où j'ai placé Dieu au second plan. Alors bien sûr, les grandes questions, voilà, on demande le Seigneur, mais dans tous ces aspects du quotidien, combien nous négligeons notre écoute de Dieu? Est-ce que nous écoutons Dieu alors qu'on est devant la rentrée, de se dire ben, tel choix pour nos enfants, tel choix d'activité, tel choix de vie de famille? Est-ce qu'on prend le temps de l'écouter? Est-ce qu'en tant qu'Église, alors qu'on ouvre une nouvelle page, une nouvelle saison, est-ce que nous prenons le temps d'écouter le Seigneur, de ce qu'il veut nous voir vivre? Écoutez notre Dieu. Je voudrais simplement prier pour que le Seigneur puisse nous aider. Seigneur, c'est vrai, On l'a proclamé tout à l'heure par le chant, tu es le Dieu Tout-Puissant. Et ce matin, on est là dans ta présence avec les personnes qui sont autour de nous pour t'adorer. Mais t'adorer, ça veut dire on veut t'écouter. Parce que tu es un Dieu qui parle, un Dieu qui se révèle, un Dieu qui est en relation et qui désire l'être de façon intime, privilégiée avec chacun de nous, mais aussi collectivement. Et ce matin, j'aimerais, alors qu'on ouvre cette année, te demander, Seigneur, que tu disposes nos cœurs à ton écoute. Il y a tellement de bruit autour de nous, il y a tellement de distractions, il y a tellement d'occupations qui combattent autour de nous et qui combattent en nous et nous négligeons de t'écouter. Alors que tu as un message pour nous. Et Seigneur, je prie pour toutes les générations que nous sommes rassemblées ce matin, pour que nous puissions continuer à apprendre à t'écouter, à nous encourager, à nous exhorter à t'écouter. Alors parle-nous ce matin, dans la simplicité de ta parole, mais aussi dans la profondeur de ta parole qui vient rejoindre chacun des cœurs, qu'on soit jeune ou moins jeune. Viens rafraîchir notre vision de toi. Viens rafraîchir l'amour que toi tu nous portes. Viens rafraîchir que avec toi on a un chemin à parcourir, une vie à accomplir, une vie à saisir. Seigneur, je sais que parfois il arrive des moments où on a du mal à écouter et parfois c'est peut-être la période la plus longue où on néglige de t'écouter, où on néglige de chercher ta face. Seigneur, je prie que ce soit pas le cas de notre Église. Seigneur, que nous, toujours à nouveau, nous revenions à ta parole. Que nous revenions à ce temps d'écoute où nous souhaitons que ton esprit nous révèle qui tu es. Et ce que nous sommes pour toi. Ce que nous sommes appelés à faire pour toi. Et c'est en Jésus-Christ qu'on te le demande. Amen. Alors ce matin, exceptionnellement, je vais m'arrêter sur un verset, mais je vais quand même prendre le contexte. On est dans l'évangile de Jean, chapitre 10, un des chapitres souvent les plus connus, parce que c'est là où Jésus évoque qu'il est le bon berger de ses enfants, qu'il est celui qui rassemble ses brebis. Et il est c'est Jésus qui enseigne la foule, il est dans un dialogue, il y a des gens qui comprennent, des gens qui comprennent pas. Et on est au verset 22, je vous propose simplement de le prendre au verset 22, jusqu'au verset 30. C'est 22, verset à 30. On célébrait alors à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Jésus marchait dans le temple, sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent « Jusqu'à quand nous laisseras-tu dans l'incertitude ? Si tu es le Messie, dis-le-nous franchement. » Est-ce qu'on est dans l'incertitude ? L'incertitude du lendemain. Est-ce que tu es le Messie ? Jésus leur répondit « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que j'ai faites au nom de mon Père témoignent en ma faveur. » Mais vous ne croyez pas parce que vous ne faites pas partie de mes brebis, comme je vous l'ai dit. Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. Le Père et moi, nous sommes un. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Alors, voyez le contexte. Il y a plusieurs paroles que vous avez peut-être déjà entendues, qui sont peut-être précieuses à vos cœurs. Et ce matin, pour titre, je vais dire pour le suivre ensemble. Écoutons-le. Pour le suivre ensemble, écoutons-le. Et pour cela, j'aimerais simplement nous arrêter sur ce beau verset verset 27, pardon. Si après 20 ans de vie chrétienne, s'il y a quelque chose que je retiens dans ma vie, c'est que les périodes, les moments où j'ai négligé d'écouter, où j'ai négligé de venir écouter Dieu quotidiennement, Mon cœur, mes pensées ont commencé à dévier, à partir dans une autre direction. Parfois, c'est assez manifeste, mais parfois, c'est simplement par l'attitude du cœur qui peut ressortir, le mécontentement, un cœur qui est mécontent, un cœur qui est moins dans la joie, qui est moins dans la reconnaissance. Un cœur qui en fait qu'à sa tête, une vie qui en fait qu'à sa tête, c'est un cœur qui ne prend plus le temps d'écouter la voix de Dieu. Et pour une église, c'est pareil. Une église qui dévie, une église qui oublie la voix de son Dieu, qui oublie ce canal de connexion privilégié que nous avons en Jésus-Christ, va inévitablement dévier de sa route et va cultiver le mécontentement, et tous les soucis qui peuvent nous préoccuper. Verset 27, hein, « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Alors le premier point, c'est son église. Qui est appelé à écouter ? Mes brebis. Mes brebis. Je ne sais pas ce que ces deux mots évoquent pour vous, hein. Alors déjà, mes brebis, c'est qu'il y a plusieurs brebis. C'est un nombre conséquent. Il n'y a pas une seule. Il y a la dimension du groupe. Il y a le pronom possessif, hein. Mes brebis. Les brebis appartiennent à quelqu'un, à celui qui prononce ces mots, et ici on a en l'occurrence Jésus-Christ, hein. Mes brebis. Il en est le propriétaire et pas un autre. Il y a une appartenance. Et il y aurait plein d'applications à évoquer, à envisager, à questionner autour de cette question-là de son église, de mes brebis. La première application, il y a ceux qui sont ses brebis et il y en a ceux qui le sont pas de ses brebis. Et on le voit clairement dans le verset juste qui précède, hein, le verset 26. Il y en a certains qui en font clairement pas partie, qui en sont exclus. Un chrétien appartient à Christ, un chrétien appartient à son corps. Et c'est mon identité. Si j'appartiens à Christ, je fais partie de sa famille. J'ai eu l'occasion plusieurs fois cette semaine de l'évoquer, de la beauté de cette famille nouvelle que nous avons. C'est important de savoir qui on est. Je suis la brebis du Seigneur. Il y a une certaine dignité de se dire « je suis la brebis du Seigneur ». La brebis du roi des rois, la brebis de Dieu, cette famille que nous appartenons. Et je crois que notre responsabilité, ma responsabilité en tant que responsable d'église, c'est de nous encourager à voir, à saisir, à méditer, à écouter cette dimension communautaire d'être un troupeau. Alors un troupeau, ça peut être négatif, mais de voir cette dimension communautaire. Il n'y a plus, quand on est un enfant du Seigneur, il n'y a plus cette indépendance. Ce sont mes brebis, je lui appartiens. Il y a une certaine redevabilité, il en est mon propriétaire. Il n'y a plus cette indépendance envers Dieu, mais aussi envers les autres. En fait, un chrétien est profondément dépendant de Dieu et dépendant des uns et des autres. Écoutons-le. Et c'est vrai que dans ce chapitre 10, je l'ai évoqué, il est question de Jésus, le bon berger. C'est son qualificatif de celui qui est notre propriétaire, qui a donné sa vie pour ses brebis, c'est le début du chapitre. Nous avons un bon propriétaire, un bon maître. Quand on a parcouru Marc, on a vu ce maître, on a vu quelle autorité il avait, qu'il était un roi, qu'il voulait avoir tous les droits, et qu'il en avait d'ailleurs tous les droits, mais qu'il voulait aussi avoir tous les droits sur nos vies, sur nos cœurs. Parce qu'il en est un bon propriétaire qui a donné sa vie. Paul dira que cette propriété a été marquée de son sceau du Saint-Esprit. Il est venu habiter dans nos cœurs. On est sa propriété. Il nous a mis dans notre cœur son esprit comme un acompte de ce que nous sommes aujourd'hui. Verset 16, hein, de ce même chapitre, il est question de un seul troupeau, un seul berger. Si vous parcourez l'évangile de Jean, chapitre 11, Jésus rassemble ses enfants de tous les coins du monde, de toutes les générations. Et je dois dire, une église, ça doit rassembler toutes les générations. On doit apprendre à cheminer ensemble, jeunes et moins jeunes, du berceau On pourrait dire à la maison de retraite, si on voulait. Mais c'est cela. Ce troupeau que Jésus rassemble de toute génération, de toute langue. C'est lui qui a rassemblé ses brebis dispersées pour les réunir en un seul peuple. Il y a une profonde vision d'unité dans la parole de Dieu de « nous sommes son peuple », d'interconnexion. Et c'est ce que nous nous sommes appelés à écouter avec ce verset « mes brebis ». Et si vous prolongez la lecture de Jean, vous aurez cette dimension de le cep et le sarment. C'est la même idée. La prière que Jésus a fait avant d'être arrêté, la prière sacerdotale en Jean 17, il va prier pour que l'Église soit un. Il y a vraiment cette dimension unitaire. Et dans une période où le monde va du chacun pour soi, du chacun sa paroisse, chacun sa vie, chacun ses choix, il est bon de réécouter ce que dit la parole de Dieu, mes brebis, mon peuple, mon Église, son Église, son corps. Et je crois que Dieu aura quelque chose encore à nous dire cette année sur ce que ça veut dire cette dimension communautaire. À la fois individuellement, personnellement, on va apprendre des choses, mais j'espère aussi collectivement. Dieu a déployé un plan de salut pour se constituer un peuple. Et je crois qu'on ne peut pas négliger d'écouter cette vérité tellement profonde, tellement, on va dire, commune normalement à chacune de nos vies. Et je crois qu'ensemble, cette année, nous avons besoin d'affirmer que l'Église est le peuple de Dieu, le corps, l'épouse de Christ, son troupeau. Il en est le propriétaire exclusif. On ne suit pas des responsables, on suit le bon berger. Et alors on est chacun uni à Christ. Et je trouve que Jésus, il explicite un peu cette appartenance encore. Il dit « je les connais ». Je trouve que dans cette dimension communautaire, il nous connaît. C'est important aussi de l'entendre. Il vous connaît. Il me connaît. Alors, de quelle nature est cette connaissance? Jean 10, verset 3, hein. Les brebis écoutent sa voix, il les appelle par leur nom. Les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Quand Jésus dit « je les connais », c'est-à-dire qu'il vous connaît personnellement, avec ce que vous êtes. Parmi les milliards d'individus, il vous connaît. Il te connaît, quel que soit notre âge. Parce qu'il a établi cette relation personnelle. On n'est pas des anonymes, on n'est pas perdu dans ce troupeau. Alors nous, on peut se perdre. Moi, je me perds souvent avec les prénoms. Je me perds peut-être avec les visages, de se dire « est-ce que je vous ai déjà vu ?» Mais pour Dieu, son troupeau, il vous connaît. Il sait où vous placer. Notre Dieu a placé des hommes et des femmes aux personnalités et aux dons différents. Des personnalités aux dons différents. Au verset 14 et 15, Jésus nous donne un autre aperçu et que je trouve qu'il rajoute encore de la profondeur à cette connaissance. Moi, je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Tout comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Je trouve cette image, elle est extraordinaire parce que Dieu est en train de dire « je vous connais comme Dieu me connaît ». Et quand on sait qu'ils sont un, dans cette intimité, proximité infaillible, on pourrait dire, c'est fort. Jésus nous connaît comme son Père le connaît. Et il dit même que nous le connaissons. Alors on a besoin de l'écouter. Est-ce qu'on le connaît aussi bien que lui, il nous connaît? Jésus connaît notre caractère. Est-ce qu'il voit en nous que nous sommes ses brebis? Vous savez, c'est comme un mari qui attend son épouse sur le quai de la gare. Il va la reconnaître parmi mille. Il va regarder tous ceux qui vont descendre, mais il va reconnaître son épouse. Il la reconnaît, il reconnaît ses traits, il la voit dans ses yeux. Et c'est ce que le Seigneur, il connaît chacune de ses brebis de son troupeau. C'est tellement rassurant. Je n'ai pas besoin d'insister, hein, de savoir ce que ça veut dire, cette connaissance personnelle. Et on a besoin de l'entendre. On a besoin de l'entendre quand on est au fond du trou, que Dieu nous connaît. On a besoin de l'entendre quand on se sent pas à la hauteur. Il nous connaît. C'est un don précieux, je suis connu. Et quand on regarde après ce verset 27, hein, c'est un verset très connu, il nous connaît au point que nous sommes dans sa main. Quand on a dans sa main, au plus proche de ses yeux, on pourrait dire, hein, nous sommes précieux, personne ne peut les arracher, c'est fort comme... Écoutons-le quand il nous dit cela. Oui, il y a des moments de doute, des moments de crise, des moments de détresse, mais nous sommes dans sa main. Il nous connaît, il connaît nos cœurs, il connaît nos préoccupations, il connaît nos situations. Quand je vous ai parlé de l'enseignement sur les responsables, hein, je vous avais cité ce Ézéchiel 34 qui parlait des faux bergers et du bon berger qui devait venir en Jésus-Christ. Voici ce que je vais simplement citer, ce que dit Dieu de lui-même. Je vais moi-même venir m'occuper de mon troupeau. Je les ferai sortir de chez les peuples, je les ferai paître sur les hautes montagnes d'Israël. C'est moi qui les ferai paître, mon troupeau. Je panserai celles qui ont quatre passées. Je fortifierai celles qui est malade. Je les ferai paître avec justice, etc. Ça, c'est celui qu'on a envie d'écouter, celui qui nous connaît et qui a envie de nous restaurer, de nous guérir, de nous nourrir, etc. Alors c'est vrai, en ce début d'année, on a peut-être tout un tas de tracasseries personnelles en tant qu'Église. Voilà, il connaît tout cela. Il connaît notre passé, il connaît notre avenir. Écoutons-le, parce que nous sommes son peuple et parce qu'il nous connaît. Et il nous connaît en tant qu'Église de Wittenheim, personnellement, individuellement, avec nos défauts, avec nos travers. Et pour cela, on a besoin de cultiver cette intimité, cet attachement avec lui, parce qu'il nous parle, il veut nous aiguiller. C'est lui qui nous connaît. Ce berger qui s'est sacrifié, ce berger qui a donné sa vie, au prix de sa vie, au prix de son sang, il la maintient. Deuxième élément qui ressort de son texte, et ça rejoint le mot d'ordre, hein, c'est l'écoute. Parce que la caractéristique de cette appartenance, d'être de son troupeau, d'être de cette brebis qu'il connaît, c'est qu'on l'écoute. Ça veut dire que Dieu nous parle, que Dieu est dans un discours, dans un échange, dans des informations qu'il veut nous transmettre. Mes brebis écoutent ma voix. Écoute ma voix. Écoute ma voix et pas celle d'un autre. Être chrétien, c'est écouter Dieu. Être église de Dieu, c'est écouter Dieu. C'est différent d'aller de temps en temps écouter Dieu ensemble en église. Chapitre 8 du Jean, Jésus dit cela, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Et je crois qu'on a besoin aussi d'entendre cette affirmation qui est dure. Vous n'écoutez pas, vous n'êtes peut-être pas de moi. Je ne sais pas qui nous sommes chacun. Est-ce qu'on écoute Dieu? Si vous n'écoutez pas, c'est que vous ne lui appartenez pas, c'est la conclusion de Dieu. Est-ce qu'on se donne les moyens de l'écouter? Alors ce matin, j'ai pas la prétention de voir tout ce que le mot écouter veut dire dans la parole de Dieu et j'ai même pas fait les recensions des nombreuses occurrences où il y a le mot écouter, notamment où Dieu demande à son peuple de l'écouter. Il nous demande d'écouter sa parole, hein. C'est pour ça que la Bible, c'est la parole. Alors, cela pose notre question de l'importance qu'on lui donne. Si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Mais il y a un regard unique pour celui qui fait partie de la maison de Dieu. Et c'est un homme, une femme, une église, un peuple qui écoute. Une caractéristique de celui qui l'écoute, et on le voit aussi dans ce texte, c'est que elles me suivent. On suit le Seigneur pour être bien orienté. Verset 4, hein, dans ce même chapitre de Jean 10, lorsque le berger les a fait sortir de son enclos, il dit « Il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Nous discernons sa voix. » Alors, chez nous, on a l'image du troupeau de brebis, souvent, où on a le berger derrière avec des chiens là qui font la garde. C'est pas l'image que Dieu a a choisi, c'est plutôt l'image du Proche-Orient où il y a un berger devant et il y a le troupeau qui suit. Il les connaît par son nom, il les appelle, il crie peut-être, il chante, j'en sais rien. Mais voilà, c'est l'image vraiment du berger qui marche devant ses brebis, qui les conduit. Et les brebis le suivent parce que sa voix leur est familière. Est-ce que la voix de Dieu nous est familière? Et Jean 10 nous dit qu'elle nous est familière au point qu'on se détourne des autres voix. Parce qu'il y a d'autres gens qui parlent. Parce qu'il y a d'autres discours à entendre. Et on est dans un monde de l'information, on a un monde de la communication. Qui est contre nous? Est-ce qu'on écoute Dieu? Est-ce que j'écoute Dieu? Parce que derrière l'écoute, inévitablement, c'est discerner, c'est être capable de distinguer la voix de notre Seigneur de celle des autres. Mes amis, c'est pas évident. Qu'est-ce que Dieu nous dit? C'est pas évident d'écouter. Est-ce qu'on écoute ces voix qui veulent nous détourner de Dieu, ces voix qui vont faire interférence à sa volonté, qui vont brouiller son message? Combien de fois j'ai déjà entendu « Dieu m'a dit » et puis de cette personne, si on pousse un peu plus loin la question « Comment l'as-tu écouté ? Est-ce que tu as pris le temps d'ouvrir ce qu'il dit de lui ?» voilà, il n'y a pas cette intimité, cette connexion. Des fois, voilà, c'est un aspect mystique parfois. Nous sommes appelés à rencontrer notre Dieu et à l'écouter quotidiennement. Pour être bien orienté, pour lui faire confiance, pour discerner. Aujourd'hui, pour aller d'un point A à un point B, on a le GPS, hein, c'est tellement facile. Je sais pas comment vous faisiez les aînés sans le GPS et le téléphone. Vous savez que vous deviez aller à rendre à telle adresse. Aujourd'hui, vous la rentrez et le GPS vous fait la trace. Hein. Peu importe le moyen que vous prenez, mais en tout cas, voilà, on est guidé, on est dirigé. Le problème, c'est que nos pensées, prendre de bonnes décisions sages, arriver à la bonne destination, ça n'existe pas. Dieu nous a créés avec une intelligence, une capacité à prendre des décisions, à avoir une volonté, à faire des choix. C'est à toi, c'est à nous de voir, de nous placer jour après jour et de nous dire qui je vais écouter, par qui je vais me laisser guider, qui va me diriger. On n'est pas en autopilote. Ça n'existe pas sur nos cœurs. On a besoin de réaligner nos cœurs. Et bien sûr, on a notre Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui travaille nos pensées, bien sûr. Mais si je ne prends pas le temps d'être conscient, de revenir à l'écoute de Dieu, à la parole de Dieu, à ce qu'il veut me dire quotidiennement, je vais manquer de guide. C'est comme marcher en forêt sans boussole. L'apôtre Paul va dire « Toute parole est utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire. » Ça veut dire que nos cheminements sans écouter Dieu ne sont pas tout à fait justes et qu'on a besoin de les corriger par son esprit, par sa parole. Alors écoutons, allons vers les Écritures. On va trouver toutes les réponses à nos questions. Vous avez des questions sur vos finances ? Dieu a des réponses. Vous avez des questions sur l'éthique de votre travail ? Dieu a des réponses. On peut parler de mariage, on peut parler de fidélité. On peut parler de philosophie, même autour des questions environnementales, la question de l'avortement, la question du suicide, la question du raciste, la question de la vision du monde, la question de la guerre, la question de notre place avec les autres religions, de ma relation avec les gens. Dieu veut nous dire des choses. Est-ce que nous laissons sa parole nous instruire et nous diriger, être notre boussole, être notre GPS? Parce que c'est facile d'être désorienté, d'avoir ces voix parasites qui vont nous brouiller le message tellement clair de la parole. Quand on fait le GPS, des fois, on a besoin de contrôler où on va. Le nombre de fois où je me suis fait avoir, parce que soit l'adresse n'était pas bon, soit il m'a fait passer un passage, je me dis, mince, il me passe par où. On a besoin d'écouter le Seigneur pour voir si le chemin sur lequel nous sommes, il est le bon. Et ce que je trouve fort, c'est qu'à la suite de notre texte, on l'a entendu, on est dans sa main, mais il y a toute la question, personne ne pourra les arracher. Votre destination, elle est sûre. Alors, le chemin qu'on va prendre, il va peut-être être chaotique, on va faire des détours, et bien des détours, je me connais, j'en fais bien des détours, mais le point d'arrivée, il est acquis. Il ne peut plus être effacé. quand on appartient au Seigneur, quand on fait partie de son peuple, il veut nous diriger, nous conduire, et il sait où il veut nous mener. Son chemin est sûr, malgré nos errements. On peut avoir confiance dans sa souveraineté, dans sa providence, dans sa grâce. Alors on a besoin de vérifier, on a besoin d'écouter, on a besoin de discerner. Chaque fois, je l'ai évoqué, hein, mais que dans ma vie chrétienne, en 20 ans de vie avec le Seigneur, que j'ai négligé de venir l'écouter, venir le rencontrer, de venir me chuchoter à mon oreille, parce que c'est ça, sa parole, il nous parle intimement. Vous pouvez être sûr que dans la journée, on a dérivé dans ses pensées, dans sa direction, dans plein de choses, dans les valeurs qu'on attache. On n'est pas imperméable à ce que nous vivons, à ce que nous traversons, mais nous avons besoin de reconnaître notre besoin, notre dépendance de notre Seigneur, de notre bon berger. Alors écoutons sa voix. C'est ce qu'on aimerait nous encourager. Écouter, ça veut dire mettre en pratique. Ça veut dire aussi se dire, mais Jésus me dit de faire ça, alors je vais le faire. On n'est pas comme un mouton qui va faire au gré du vent ce qu'il a envie de faire, ou de faire comme les autres moutons, sans se poser de questions. Non, nous sommes appelés à écouter. Écouter, ça veut dire aussi rester peut-être dans le troupeau dans lequel il nous a placés. Alors que parfois notre comportement de brebis galeuse ou de brebis rebelle, on a envie de tendance de sortir du troupeau, c'est beaucoup plus tranquille, tout seul là, d'aller voir ailleurs, sans oublier les conséquences que nous sommes un peuple et qu'il y a des bénédictions extraordinaires d'être un peuple et de suivre la route ensemble. Alors écoutons ensemble. Écoutons-le ensemble, en église, personnellement, individuellement. Et j'aimerais, simplement pour conclure, hein, vous rappeler les trois axes, les trois résolutions que je vous avais données cette année, en début d'année. Je vais vous les lister. Hein. Qu'on avait envie d'être une église transformée par notre adoration de Dieu. Ça veut dire une église qui est transformée par la connaissance de Dieu, par la grandeur qu'il est. Et en fait, pour cela, pour savoir quel Dieu on a besoin de l'écouter et de l'écouter ensemble. On a envie d'être des disciples qui s'investissons, qui prenons soin. On parlait des enfants, à prendre soin, à entourer, à accompagner, à partager, à prendre soin des uns des autres, à prendre soin du monde. Ben, pour cela, on a besoin d'écouter le Seigneur pour voir comment on doit le faire, avec quelle attitude, avec quel comportement, avec quel regard à avoir sur notre prochain. Et bien sûr, on est appelé à avoir une foi publique, une foi qui rayonne, une foi qui se voit, une foi qui donne envie. Mais si on est un peuple dispersé, si on est un peuple rebelle, si on est, enfin tout ce que vous voulez, comment voulez-vous témoigner efficacement notre Seigneur ?